message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Il y a une espèce de confusion parce que on considère que l'onction pourrait être l'huile d'onction qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance et que dans nos églises, on voit les gens mettre de l'huile sur d'autres gens en disant « voilà, tu es loin de l'esprit parce que je te mets de l'huile dessus ». Et ça, c'est pas juste, c'est faux. Ce n'est pas en tout cas biblique dans le Nouveau Testament. Ça peut l'être dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'huile, d'olive, avec ces ingrédients dedans, tels qu'on va le voir dans l'Ancien Testament, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit demeure sur nous et habite en nous. Et c'est bien mieux que l'huile. Mais l'huile, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et cette réalité va se trouver dans le Christ. C'est lui la véritable onction de Dieu. C'est lui qui est capable de nous oindre de son esprit. C'est lui qui est capable de nous accorder ce dont nous avons besoin pour comprendre les choses d'en haut. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs types d'onction dans l'Ancien Testament avec de l'huile. On va venir sur cette huile-là dans l'enseignement ce soir pour que nous comprenions plein de choses concernant l'huile d'onction, l'huile sainte dont se servaient les sacrificateurs, dont Dieu avait dit à Moïse de faire une onction avec des aromates de première qualité. Nous allons les voir, ces aromates, et qu'est-ce qu'ils représentent dans l'œuvre de Christ. Et donc... cette onction-là était d'abord pour oindre, si Moïse a reçu l'instruction de l'Éternel, c'était en priorité pour oindre les sacrificateurs qui devaient avoir accès au service de Dieu dans le tabernacle, mais aussi sur le souverain sacrificateur qui est un type de Christ dans l'Ancienne Alliance. Aaron était un type de Christ. Mais la réalité, c'est que le Christ, en tant que souverain sacrificateur, est bien plus excellent que Aaron, parce que si Aaron est mortel, Christ lui demeure pour l'éternité. Si on devait faire des offrandes de sacrifices constamment, alors Christ, par une seule offrande, il a mené tout à la perfection. Donc, on va voir que entre les deux, la bien meilleure alliance, c'est la nouvelle. Ok ? Donc, l'huile de l'onction dont Dieu va donner la composition à Moïse, était faite d'abord en priorité pour oindre les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, et nous avons compris la semaine dernière tous les objets de culte consacrés à l'Éternel. Parce que tout ce qui est dans le tabernacle, tout ce qui est dans le temple est saint. Et tous les ustensiles devaient être, tous, sans exception, devaient être aspergés de sang et oints d'huile. Parce que ces ustensiles-là pouvaient servir Dieu que s'ils avaient reçu cette aspersion de sang et s'ils avaient été oints d'huile, c'est comme nous. Si nous voulons servir Dieu, il faut que nous soyons mis au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus et d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, pour servir Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu si vous n'avez pas été lavé par le sang de Jésus et oint de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est clair, net et précis. Sans cela... vous ne pouvez pas servir Dieu. Je me suis bien fait comprendre ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas être autrement que d'accord avec moi. Donc, il y avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Il y avait aussi l'onction qui était faite pour aller oindre les rois. Et nous voyons plusieurs fois dans l'Écriture des prophètes aller oindre des rois, comme Samuel a oint David, comme Samuel a oint Saül. Mais je vous fais remarquer que entre Saül et Samuel, et Saül et David, l'onction d'huile n'était pas la même. Si David a été oint avec une corne d'huile sur son visage, sur son être entier, Saül, lui, il a été oint avec une fiole d'huile. Ce qui nous montre que l'onction n'était pas la même. David pouvait dire « ma coupe déborde », pas Saül. David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Saül, il s'est suicidé. Donc voyez-vous, quand on prétend avoir l'onction de Dieu, il faut l'avoir. Même pas une onctionnette, mais une pleine onction de Dieu. Comme disait David, ma coupe déborde. Il était rempli de l'esprit. Donc, onction pour les sacrificateurs, onction pour le souverain sacrificateur, onction pour les ustensiles du tabernacle, onction sur les rois, onction sur les prophètes. Et nous avons souvenance, mardi dernier, d'avoir vu comment Dieu envoie Élie oindre Élisée. Un prophète qui va oindre un autre prophète. Donc, nous voyons que cette onction d'huile dans l'ancienne alliance, elle est pour mettre à part, consacrer quelqu'un. C'est comme si vous naissez de nouveau. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, Dieu vous a consacré et vous a mis à part. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il veut aussi les glorifier. Romains chapitre 8. Donc, nous voyons là qu'il y a un processus dans lequel Dieu veut nous faire marcher. Et en fait, nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu par des œuvres sans avoir l'Esprit. Parce qu'il se peut qu'on trouve dans nos églises des gens qui ont de la bonne volonté, qui font beaucoup d'œuvres charnelles, mais qui ne sont pas dirigés par l'Esprit. Or, leurs œuvres ne servent de rien du tout. Le monde, il fait pareil. Le monde fait pareil. Donc, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions, n'est-ce pas? Donc, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, nous avons aussi vu qu'il y avait une onction particulière sur les lépreux, pour les guérir de la lèpre. Et on a donc, vous, si vous voulez toutes ces références, vous les aurez dans le CD, on les a données hein, déjà la semaine dernière. Voilà, alors, en Exode 30, maintenant nous prenons nos Bibles, en Exode 30 et versets 22 à 32, voilà que Dieu va donner la composition de cette huile d'onction sainte. En fait, quand on regarde le mot huile en hébreu et le mot onction en hébreu, on va s'apercevoir vite que les mots, le shemen, qu'on appelle l'huile, qui est une huile spécifique pour l'onction, et l'onction, donc l'huile et l'onction, il y a un mot que vous allez vite reconnaître, c'est mishach en hébreu, que nous retrouvons dans le mot du Christ, Yeshua HaMashiach. Et ça veut dire le sauveur oint. Mais on peut dire que cette huile d'onction sainte, on peut la traduire par huile de messianité sainte. Parce que le Mashiach, c'est le Messie. Le Messie, c'est le oint. Et le oint, c'est celui qui a reçu l'onction du Père. C'est comme Jésus dit quand il vient à la synagogue de Nazareth, quand il déplie le rouleau, il va dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. » Il déclare qu'il est dans sa messianité. Il déclare qu'il est le Messie en disant cela. Il s'approprie l'onction sur sa vie parce qu'il est le Messie d'Israël, celui que le Père a envoyé. Donc, on va à Exode 30, verset 20 et suivant. Je vais vous le lire, à partir verset 22. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Alors, je vous ai un petit peu donné une version pour que vous compreniez les poids, les équivalents. Hein, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Procure-toi des aromates de première qualité. » Alors, certaines Bibles vont dire « les plus excellents hein ». Dans vos Bibles, vous devez avoir ça. Des aromates les plus excellents, de meilleure qualité. En réalité, l'hébreu ne dit pas ça. L'hébreu va dire, il va mettre le mot roche, il veut dire tête. Alors on peut comprendre que Dieu va dire à Moïse, mais la tête de tous les meilleurs aromates. Ça veut dire le premier rang de tous les aromates. Ça veut dire l'excellence de l'excellence de l'aromate pour faire cette huile d'onction. Roche, c'est le mot qu'on trouve, Bereshit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, il n'y a rien de fortuit. C'est aussi ce mot où on dit, il est écrit de moi dans le rouleau, en tête du rouleau. Il est écrit de moi, il est écrit au départ, aux roches, en tête, au commencement de toute chose. Donc, on s'aperçoit que Dieu dit, tu vas prendre, hein, tu vas te procurer des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide. Alors, nous allons revenir sur tous ces aromates en détail. La moitié, soit 3 kg de cinnamone aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse selon l'unité du poids en vigueur au sanctuaire et 6 litres d'huile d'olive, ou 1 ou 1. Hein, vous avez le 1 peut-être dans votre version, H-I-N. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile d'onction sainte pour... Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, voilà ce que Dieu va dire à Moïse, tu oindras la tente de la rencontre, c'est-à-dire le lieu très saint, et le coffre de l'acte de l'alliance, c'est-à-dire l'arche d'alliance. Il va falloir que cette arche d'alliance soit ointe avec l'huile d'onction. Manquerait-il le sang sur l'arche? Mais non, parce que le jour du Yom Kippour, quand le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint pour apporter le sang de l'expiation du peuple, il va mettre du sang sur le couvercle de l'arche. Donc cette arche, il bénéficie non seulement de l'aspersion du sang, mais aussi de l'onction d'huile sainte. Donc c'est consacré à Dieu. Et c'est d'autant consacré à Dieu que si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de l'arche, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de l'arche, il y a trois choses qui sont déposées en mémorial devant l'Éternel. Un, ce qu'on appelle la Torah, la loi, ce qui a été écrit par le doigt de Dieu, les tables de pierre, les 10 commandements, et un vase de manne en souvenir de la manne qui a été donnée à Israël pendant 40 ans dans le désert. Et en fait, un troisième témoignage, c'est la verge d'Aaron, cette fameuse verge qui avait fleuri en une nuit, qui portait des amandes lors de la révolte de Corée que nous avons dans le nombre 16. Donc on s'aperçoit très très bien que cette arche d'alliance, elle était en état de recevoir la présence de Dieu. Dieu ne peut pas se présenter dans nos vies, il ne veut pas demeurer sur nous comme il demeurait sur le tabernacle, si on n'a pas été aspergé par le sang de Jésus, lavé, purifié, et si on n'a pas l'onction sur nos vies, c'est-à-dire l'Esprit Saint sur nos vies. Très important, je vous assure, très important. Parce que beaucoup prétendent être au Seigneur et servir Dieu sans être passés par cela. Rappelez ce que Dieu avait dit concernant les Lévites. Ils sont à moi. Ils sont ma part particulière. Les Lévites sont à moi. J'ai mis cette tribu à part pour moi. Mais moi, je vous les donne en don pour vos frères. Ça veut dire que les Lévites, ils servaient l'Éternel, mais ils servaient en même temps leurs frères. Parce que c'est eux qui faisaient des sacrifices et qui permettaient aux pécheurs de s'approcher de Dieu. Ils servaient Dieu, mais ils servaient aussi leurs frères. Et dans l'Église, les ministères, ils ne doivent pas seulement que servir Dieu, ils doivent servir aussi leurs frères. Important. Très important. Si, sur le plan ministériel ou sur le plan pastoral, on croit que le pasteur, il est fait uniquement pour être là derrière et s'adresser aux brebis sans s'occuper des brebis, vous vous trompez. Ils ont été donnés en don pour leurs frères. Ça change la perspective, n'est-ce pas, hein? Ça veut dire que celui qui prétend être le plus grand parmi vous, il soit le serviteur de tous. Donc, Avec cette huile, tu oindras, le verset 26, la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance. La table avec tous ses ustensiles, le chandelier, les accessoires et l'autel des parfums. Ça veut dire qu'il devait oindre aussi et la table de peine proposition qui était dans le lieu saint, et le chandelier qui était dans le lieu saint, et l'autel des parfums qui était dans le lieu saint. Ces trois instruments qui sont dans le lieu saint typifient réellement la vie du chrétien. L'autel des parfums, l'encens qui monte vers Dieu, c'est la prière des saints qui monte vers Dieu. Mais nos prières, elles sont agréables et acceptées de Dieu, mais que si elles sont animées du... Ah oui. Le pain, la table de pain de proposition, les chempanim en hébreu, ça veut dire la table devant la face de Dieu, les pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël, et la typification de notre nourriture à nous aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est le pain de Dieu pour nous. Mais cette parole dont nous devons nous nourrir, elle doit être aussi illuminée par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le lieu saint ? Ben, le chandelier, qui va, lui, la seule lumière. C'est la seule lumière qui est dans le tabernacle. C'est le chandelier. C'est la seule lumière qu'on trouve dans le tabernacle. Et on le trouve dans quoi ? Dans le lieu saint. C'est pour ça que vous êtes la lumière du monde. Mais je ne peux être une lumière que si l'Esprit de Dieu vive réellement en moi. Donc, tu oindras la table, tu oindras l'autel avec l'autel des parfums, bien sûr, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son sop. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il devait oindre aussi l'autel des holocaustes. Mais mes frères et sœurs, n'est-ce pas l'endroit où la croix est dressée et n'est-ce pas un lieu très saint ? La croix, n'est-ce pas un lieu très saint ? Dieu va dire à Moïse, tu vas sanctifier l'autel des holocaustes, tu vas le sanctifier l'autel des sacrifices, tu vas le oindre d'huile, tu vas l'asperger de sang. Il va dire cette chose extraordinaire, quiconque touchera à l'autel sera saint. Et l'autel est une chose très sainte. Qu'est-ce que vous comprenez à tout cela ? Ça veut dire que la croix, c'est une chose très sainte. C'est quelque chose qui sort du cœur du Père. C'est très, très, très saint. C'est la volonté de Dieu manifestée au travers de Christ qui va se réaliser dans l'œuvre de la croix, dans le sacrifice de Jésus. C'est une chose très sainte. Mais quiconque, par le moyen de la foi, s'approche de la croix, il devient saint. Si tu touches à la croix par la foi, Dieu te communique sa sainteté. C'était dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous croyons dans la nouvelle alliance ? Vous croyez qu'on croit quelque chose de nouveau ? Non, non, non. Tout ce qui était dans l'ancienne alliance était l'ombre des choses qui devaient venir et cette réalité va être apparente dans le Christ. Car lui, il a tout réalisé. Tout est accompli. Tout. Tout. Et si j'avais du temps pour vous parler de tous ces instruments de culte, vous verriez la merveille des merveilles qu'il y a à l'intérieur. Alors, il va dire ceci, ainsi que la cuve avec son sop. Qu'est-ce que la cuve ? Vous savez que les sacrificateurs ne pouvaient pas servir à l'autel des sacrifices si ce n'était pas lavé auparavant les mains et les pieds, sous peine de mort. Sous peine de mort. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint sans s'être lavé les mains et les pieds, sous peine de mort. Tu crois que tu viens devant Dieu les mains dans les poches, les décolletés comme ça, les fesses en l'air, et que tu dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu crois que tu es agréable à Dieu ? Tu crois que tu te présentes devant Dieu comme Dieu le désire ? Quand il va dire au sacrificateur, quand vous viendrez à l'autel, vous mettrez des caleçons de fin lin blanc, vous les mettrez jusqu'à aux trois quarts devant Jean, afin qu'on ne voie pas votre nudité. Et aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, excusez-moi les sœurs, avec les petits pantalons bien serrés, et je te trémousse les fesses, et de droite et de gauche, avec des décolletés bateaux, et tu vois le frère il est derrière, il ne sait pas s'il est en train de louer Dieu ou il est en train de regarder les fesses de la femme en face. Sous peine de mort. Attention, on aura compte à rendre au Seigneur en haut. Hein. Moi, je rigole par là. Hein. Vous pouvez rire peut-être de ce que je suis en train de vous dire, mais il y aura des comptes à rendre en haut. Hein. Et des comptes à rendre, d'autant plus que vous le savez maintenant. Et que vous en êtes responsable de ce que vous avez entendu. L'autel des holocaustes et tout, ainsi que la cuve avec son socle, la cuve étant le symbole du baptême. On a toute la marche du chrétien dans le tabernacle. Tu les consacreras, tous ces ustensiles. Ils seront éminemment saints. Le baptême, c'est quelque chose de saint. La croix, c'est quelque chose de saint. La vie dans l'esprit, c'est quelque chose de saint. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Et soyez saints comme mon Père est saint. Et si toi, en tant que chrétien, tu crois que tu appartiens à Dieu et que tu es en train de faire comme dans le monde, tu te trompes. Hein? Tu te trompes. Tout ce qui les touchera, tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, tu les consacreras à mon service comme prêtres. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en reprendra point sur le corps d'un homme et vous n'en composerez point selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérez comme telle. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. Ça veut dire, t'as pas intérêt, écoute-moi bien Église, t'as pas intérêt à imiter le Saint-Esprit. Hein? Tu me comprends? Ne dis pas que tu as l'Esprit, que tu es en train de faire une imitation pour te rendre spirituel. Et tu vas pas tromper Dieu, n'est-ce pas? T'as compris ce qu'il est dit là? Faisons attention à ce que nous faisons. Est-ce que vous croyez que la foi, c'est sérieux? Est-ce que vous croyez que l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est sérieux? Est-ce que vous croyez que ce que Dieu est en train de dire là est sérieux? Alors, nous faisons quoi? Est-ce que nous allons rectifier le tir? Eh oui, obligé, obligé, obligé. Donc nous apprenons par ce passage à la fois la composition de l'huile d'onction pour les sacrificateurs et sa signification. Elle était donc composée selon des instructions précises de Dieu. Elle ne devait servir qu'à la consécration des sacrificateurs et de tout ce qui était sanctifié, mis à part pour le service du sanctuaire. Si nous sommes tant soit peu familiarisés avec les Écritures, nous avons compris que l'onction de l'huile sainte est associée à une réalité spirituelle, l'onction de l'esprit qu'elle représente. L'huile d'onction sainte représente l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. C'est ça l'image ancienne, c'est l'huile d'onction sainte qui représente l'onction de l'esprit. Alors maintenant, je vais te dire, ah, viens si je te mets de l'huile d'huile dessus. T'es loin. Tu vas aller te laver peut-être, oui, parce que l'huile ça colle. Mais ce n'est pas ça qui va te oindre de l'esprit. Ce n'est pas l'huile que tu vas recevoir dessus qui va te oindre de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui va demeurer sur toi et qui va être en toi. Donc si on vient te dire, oh, hey, je vais te mettre de l'huile dessus, viens. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin de ça. Oui ou non? Si tu es né de nouveau, mais de quoi? De l'Esprit de Dieu. Ce qui est né d'en haut, ça vient d'en haut. Mais ce qui est né d'en bas, ça vient d'en bas. Et si tu es né d'en haut, c'est-à-dire si tu es né de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en toi. Quand ma mère et mon père ont eu un rapport dans leur vie pour que moi je naisse, quand je suis né, ils m'avaient communiqué la vie d'en bas. Oui ou non? Et comme mon Père Céleste, il me fait naître d'en haut, qu'est-ce qu'il me communique? La vie d'en bas ou la vie d'en haut? Ben, la vie d'en haut. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que vous naissiez d'en haut. En lisant ce qui a précédé, je peux affirmer que l'onction est un revêtement d'huile accompagné de façon visible ou non, c'est le revêtement de l'Esprit Saint. Nous pouvons déjà en tirer une conclusion. C'est une onction très sainte, avec une composition particulière, utilisée uniquement pour la consécration au service de Dieu, la mise à part, la sanctification, dont je vous rappelle que dans la Nouvelle Alliance, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hein, je vous le rappelle. À bon entendeur, salut. Je vous le rappelle. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification? Ça veut dire avoir été consacré et être mis à part pour Dieu. Et en étant mis à part pour Dieu, je demeure dans mon état de mise à part. Je n'ai pas un pied avec Dieu et un pied avec le monde. Que celui qui se sanctifie, dit le prophète, il se sanctifie encore plus. Mais que celui qui se souille, il se souille encore plus. Saint-Esprit, fais rentrer ces vérités dans nos cœurs ce soir. Aide-nous à bien comprendre. Aide-nous à bien comprendre. Nous avons vu que chercher de savoir si l'onction que Dieu avait donnée au travers de cette huile à Moïse, elle avait un précédent dans les Écritures. Est-ce qu'il y avait quelque chose déjà qui pouvait nous faire comprendre que c'était déjà en réalité déjà vécu par d'autres avant que le tabernacle fut construit? On s'est aperçu dans l'Écriture la semaine dernière que Jacob, lui, il connaissait déjà l'onction. Puisqu'on le voit, en deux occasions différentes, il va oindre d'huile un autel à Bethel et une pierre quand il va voir cette vision où il va voir le ciel s'ouvrir et les anges monter sur l'échelle et descendre. Et quand il a fini de voir cette vision, il va prendre la pierre sur laquelle il avait posé la tête, il a oint d'huile comme un mémorial pour l'Éternel. Quand tu es oint d'huile, c'est-à-dire que quand tu es sous l'onction de l'Esprit, tu es mis en mémoire pour Dieu. Dieu se souvient de toi. Ils sont mon trésor particulier. Je les ai inscrits sur la paume de mes mains. Nous sommes sur le cœur de Jésus. En tant que souverain sacrificateur, il a le pectoral du jugement, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, sur lesquelles maintenant est tout le peuple de Dieu. Et je peux te dire que ce soir, au moment où tu me regardes avec les yeux que tu me fais, Virginie, tu es en haut, dans les lieux célestes, sur le cœur de Jésus. Parce que c'est le peuple de Dieu qui est sur son cœur. Ce peuple qu'il a engendré de son esprit, dans lequel il tire toute son affection, tout son amour. Je vous ai aimé d'un amour éternel, dit le Père. Et vous êtes sur mon cœur. Vous êtes, je vous ai mis sur le livre de vie. Je vous ai inscrit. Comment? Avec quoi? Avec quoi? Avec le sang de Jésus. C'est le sang de l'Alliance. Tu es inscrit sur le livre de vie parce que Dieu t'a prévu pour le salut éternel. Seigneur. Lorsque nous observons la composition de cette huile sainte exclusive pour l'onction des sacrificateurs, nous remarquons qu'en plus de l'huile, c'est-à-dire l'image du Saint-Esprit par sa douceur et sa faculté de pénétration, les aromates utilisés pour ce mélange sacré sont chargés d'une profonde signification spirituelle en rapport avec les vertus du Saint-Esprit et la croix de Christ. Ça veut dire que tous les aromates que nous allons voir maintenant sont en fonction avec l'œuvre de Christ, la croix. Ils sont en fonction avec l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons les découvrir. Vous croyez que Dieu a dit de la cinnamone comme ça parce que c'est, il y a, bon, on a dit n'importe quoi, ça allait passer par l'esprit comme ça. Bon, tu vas prendre un paquet de persil, une boîte de carottes et que si tu vas. Non, c'est que tous ces aromates, tous, nous allons les voir, ils nous parlent de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus et de la l'onction de l'esprit. Nous allons le voir ensemble. Mes frères, comment peut-on tirer des Écritures des choses pareilles? Vous ne vous posez pas la question? Dieu dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. On est d'accord avec ça? Mais que les choses révélées appartiennent aux prophètes et aux fils des prophètes. Et nous sommes un peuple de prophètes. Nous étonnons pas que la révélation puisse venir vers nous, nous illuminer, nous éclairer, nous transporter dans une allégresse, dans une joie de la découverte des perfections de Christ. Il y a David. Le prophète David, le roi David, qui va dire à un moment donné dans un psaume, au psaume 92 et verset 10, il va dire ceci, « Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle, je serai loin d'une hule fraîche. » Je serai loin d'une hule fraîche. Ça veut dire que David se considérait comme étant loin de Dieu. D'une hule fraîche, pas d'une hule ancienne, d'une hule fraîche. Mais c'est même pas oin. Ici, c'est même pas oin. Le mot qui est ici pour oin, c'est plus que oin. David, il dit ici, en l'espèce, voici, tu as élevé ma corne comme le buffle, et tu m'as pétri, et tu m'as pétri, et tu m'as arrosé d'huile. Ça voulait dire que tout son être entier transpirait le Saint-Esprit. Balal en hébreu veut dire mélanger, pétrir, comme on pétrit la fine fleur de farine avec de l'huile. On la pétrit, on la pétrit. Et la fine fleur de farine, c'est Christ. Christ, c'est lui. La fine fleur de farine, pure, vierge, pétrie dans l'huile. Il était rempli de l'esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous pétrir du Saint-Esprit. Plus qu'il demeure sur nous, plus qu'il est en nous, il veut que nous transpirions de tous nos pores la présence de l'Esprit en nous. C'est pour ça qu'il a dit, tu as élevé ma corne comme le buffle. Ça veut dire, tu as élevé ma puissance comme le buffle, l'animal le plus puissant, le buffle. Et, hein, il te fonce dessus. Il est puissant, le buffle. Et tu ne peux être que puissant que par l'Esprit de Dieu. Souvenez, lorsque nous disions, que Jésus avait répandu de son esprit sur les disciples le soir de la résurrection. On est d'accord avec ça? Et que 40 jours après, il est remonté auprès du Père, et que 10 jours après, il y a la Pentecôte qui est arrivée, et que la puissance de l'esprit est venue. Regardez. Jésus arrive sur le bord du Jourdain. Jean-Baptiste est en face. Jean-Baptiste le voit et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui couvre, qui ôte. Dans l'ancienne alliance, on couvrait le péché, mais dans la nouvelle, on le ôte. Désormais, le péché ne peut plus dominer sur nous. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire quelque chose à Jean. Il va dire, il faut que nous accomplissions toute justice. Maintenant, baptise-moi. Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Mais pas du tout, il était sans péché. Que voulait-il faire en se faisant baptiser? Mais il était en train de poser un acte prophétique et personne n'a compris cet acte-là. Ça veut dire que Jésus, quand il se fait baptiser par immersion par Jean le Baptiste, prophétiquement, il annonce sa mort en étant enseveli dans l'eau et sa résurrection en sortant de l'eau. Voilà, il pose un acte prophétique. Déjà, il annonce sa mort et sa résurrection. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit que l'Esprit de Dieu le chassa dans le désert. Et pendant 40 jours, qu'est-ce que fait Jésus? D'abord, il jeûne. Et ensuite, il a une confrontation extraordinaire avec Satan. Comment Jésus a fait échec à Satan? Par le Saint-Esprit? Non. Par quoi? Par la parole. Par l'autorité de la parole en lui. Parce que Jésus, chaque fois, il disait, Ketiv, il est écrit. Ketiv, il est écrit. Il citait la parole de son Père. Et quand il fait échec à Satan, il nous est dit dans Luc que Satan se retirait pour un peu de temps. Il s'en alla loin de lui. Et il nous est dit à ce moment-là, Jésus revint en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Pareil qu'à la Pentecôte, les 40 jours. Jésus qui va se faire baptiser, Jésus qui entend la voix du Père, Jésus qui voit l'Esprit Saint descendre vers lui comme une colombe. Oui ou non? Oui ou non? Il vient, le Saint-Esprit atteste qu'il est le Fils de Dieu, mais il ne se sert pas de l'Esprit dans sa vie humaine. Il va se servir de la parole de Dieu pour faire échec à Satan. Et quand il va sortir, n'est-ce pas, du désert, il va sortir parce qu'il a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, parce qu'il est rempli de l'Esprit, il va commencer à rentrer dans la puissance et il guérit les malades, il ressuscite les morts, il guérit les lépreux, il annonce l'Évangile, les gens sont sauvés. Voyez-vous, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, quand David dit, je suis oint d'une huile fraîche. David, il dit littéralement, je suis pétri dans ton esprit. Voilà, tu peux faire comme ça, traduire comme ça ce passage. Je suis pétri. Ça veut dire tout mon être est rempli de l'esprit. Je ne parle pas d'onctionnette, petite onction. Je ne parle pas de ça, je parle d'un homme rempli de l'esprit de Dieu, qui est capable de faire l'œuvre de Dieu. Un homme qui est capable d'être un puissant héros. Un puissant héros. David l'était. Parce que non seulement il était dans la puissance de l'Esprit, mais il était dans le revêtement de l'Esprit Saint. Il était littéralement plus que revêtu. Dieu l'avait pétri. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et si tu veux être un homme, une femme selon le cœur de Dieu, attends-toi. Attends-toi à être pétri par le Seigneur de l'Esprit. Tout ton être entier va transpirer l'Esprit Saint. Toutes tes paroles qui sortiront de ta bouche seront empreintes du Saint-Esprit. Il y aura comme un feu dans tes paroles. Ma parole n'étale pas comme un feu qui dévore et comme un marteau qui brise le roc. Ce n'est pas Jérémie qui dit ça.
Tu élèveras ma corne.
Comme celle du buffle, je serai oint d'une huile fraîche. C'est pas oint, c'est balal, le verbe balal qui signifie pétri, arrosé. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Je suis arrosé, disait David. Ma coupe déborde. Alors nous allons venir. À ces différents aromates qui composent l'huile d'onction sainte. La première, c'est l'huile aromatique de myrrhe, la myrrhe. Mes frères et sœurs, rien que cela, ça vous dit rien ? Honnêtement, rien que cela, ça ne vous fait pas dresser l'oreille ? Nous avons dit que les aromates étaient tous là pour nous parler de la croix et nous parler de la manifestation du Saint-Esprit. La myrrhe, c'est quoi? Alors, souvenez-vous que quand Jésus est né à Bethléem, les rois mages, ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Jésus comme offrande? La myrrhe et l'encens. Qu'est-ce que ça voulait dire? La myrrhe, c'est les souffrances. Et l'encens, c'est la royauté. Il venait déjà dire, ce petit enfant-là, ça sera un roi souffrant. Dès la naissance. Ils sont en train de prophétiser que Christ, il sera un roi, mais qui souffrira. À la naissance. Et ils sont venus lui rendre hommage. Ils se sont prosternés devant lui. Ils l'ont adoré. Et pas seulement que les mages. Dieu confond l'intelligence des intelligents. Il n'est pas allé chercher les docteurs d'Israël. Il n'est pas allé chercher les scribes. Il n'est pas allé chercher les pharisiens. Il n'est pas allé chercher tout le gotha religieux. C'est les bergers qui sont venus. Avertis par les anges. Heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur. Heureux les pauvres. Donc la myrrhe est le symbole des souffrances. L'huile aromatique de myrrhe, alors c'est très intéressant, vous allez voir. Elle est extraite d'un arbre rabougri. Vous savez ce que c'est un arbre rabougri ? Tout petit comme ça.
Tout desséché, un arbre. Il n'y avait rien.
C'est pas un chêne, c'est pas un cèdre du Liban, c'est un arbre que tu passes à côté, tu n'as même pas envie de le voir tellement il est rabougri. Et cet arbre, il croît le long de la mer Rouge. Donc, c'est bien que là qu'ils l'ont trouvé dans le séjour qui traversait donc le désert pendant 40 ans. Ils ont trouvé cet arbre-là le long de la mer Rouge, là où Dieu avait montré à Moïse le plan du tabernacle sur la montagne. C'est par incision, c'est-à-dire qu'on est obligé d'inciser l'arbre pour en faire jaillir ce qu'on appelle une oléo-résineuse, c'est une huile de résine. Et c'est cette huile-là, qui est odoriférante. On la distille par la vapeur. Et elle va donner une huile à odeur aromatique prononcée. Quelle merveilleuse illustration de celui qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. L'arbre rabougri, n'est-ce pas ? Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais l'incision par laquelle on faisait dans l'arbre et qui fait sortir l'huile, mais il a été blessé pour nos péchés et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'huile aromatique de myrrhe nous parle. des blessures de Jésus à la croix, des meurtrissures de Jésus à la croix. Et tout cela, frères et sœurs, imaginez, tout cela a fait exhaler de l'œuvre de Christ une odeur agréable dans laquelle le Père a pris tout son plaisir. Et c'est pour ça que quand il y a l'onction de l'Esprit sur ta vie, il faut que ça sente bon. Bon! J'ai l'onction. Et tu vois le témoignage. Tu as l'onction. C'est comme ça que tu vis. Avec ces fruits-là. Et tu dis que tu as l'onction. Quand tu t'approches de quelqu'un qui a l'onction de Dieu, quand tu t'approches de quelqu'un qui est pétri par le Saint-Esprit, quand tu t'approches de lui, tu vas sentir quelque chose qui exhale de cette personne. Une odeur. Un bon parfum de Christ. Un bon parfum de Christ. L'huile aromatique de myrrhe, la myrrhe, symbole des souffrances. Ce premier élément de composition de l'huile d'onction veut dire que si tu veux avoir l'onction de Dieu sur ta vie, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il va falloir que tu passes par la souffrance. Par la souffrance. Non, ne crois pas, ne prends pas le mot souffrance au premier degré. Ah, mais j'ai déjà tout ça, c'est souffert dans ma vie. Non, je te parle de ce que Dieu va quitter de ta vie, qui n'est pas agréable. Tout ce qui est de ta chair, qui pue. Parce que tu ne peux pas donner une double odeur aux autres. L'odeur de ta chair et l'odeur de l'esprit, c'est impossible. La chair est inimitié contre Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Elle est même ennemie de Dieu. Romains chapitre 8. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous vivrez. Éternellement. Ça, c'est là, le premier des aromates. C'est l'huile aromatique de myrrhe. Alors, vous avez compris, cet arbre rabougri, quand il n'y aurait pas donné un penny, qui est un arbre quelconque, mais quand tu l'incises, il va te sortir de dedans de cet arbre, un parfum, un arôme. Mais c'est Jésus. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Homme de douleur. Mais il a été blessé, l'incision, par ses meurtrissures. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit de Dieu, il va falloir passer par la souffrance. Oh, je sais que ce message ne pourrait pas plaire à certains serviteurs de Dieu. Mais je vous le dis parce que c'est comme ça que ça se fait. Et c'est quand, à cette seule condition, que Jésus a pu envoyer le Saint-Esprit sur la terre. On va prendre le deuxième aromate. L'huile aromatique de cinnamone. Ou qu'on appelle cannelle de Ceylan. Pareil. C'est de l'écorce du cannelier, connu comme un arbre étant toujours vert. Toujours vert. Un petit peu comme le pin. Il est toujours vert, le pin. En toute saison, il est vert. Eh bien, cet arbre, ce cannelier, l'écorce du cannelier, qui est considéré comme un arbre toujours vert, c'est là qu'on va extraire de l'huile essentielle. Et frères et sœurs, vous savez qu'on vend en pharmacie de l'huile essentielle. Hein, et il y a des vertus dans cette huile, hein, pour les parties respiratoires. Et c'est une huile qui guérit certaines choses. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi que cette huile que l'on retrouve dans la composition de l'onction d'huile sainte, c'est aussi une onction qui te guérit. Le Saint-Esprit qui repose sur toi te donne cette capacité qui vient de Dieu de guérir les gens. L'huile de cinnamone. C'est pas fini. À la saison des pluies, écoutez bien, quand il pleut, on coupe à ras du sol la tige droite du jeune calonnier de 2 à 3 ans. On le coupe, on le retranche. Quand il atteint la grandeur d'un homme, à partir du tronc laissé en terre, il sortira un rejet l'année suivante. Ésaïe 11, 1. Un rejet est sorti du tronc d'Ésaïe. Vous vous rappelez ça? Son nom sera appelé Dieu puissant, Père d'éternité, conseiller, merveilleux, prince de paix. L'écorce est retirée du jeune arbre coupé par le moyen à nouveau d'une incision longitudinale et transversale en forme de croix pour faire sortir l'huile. Pour faire sortir l'huile aromatique de cinnamon, on est obligé de couper, d'inciser l'arbre en forme de croix. Ah, que de symboles. Et par battage, l'écorce ainsi obtenue est emballée dans une natte durant une nuit et séchée au soleil pendant 2 ou 3 jours. Le procédé d'extraction de cette écorce décrit, de même que la constitution en 14 composants de son huile essentielle nous parle de l'excellence de la vie et de la mort du Christ. Oui, Jésus-Christ a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé pour les péchés. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ésaïe 53. Maintenant, on va passer au roseau aromatique. L'huile de roseau aromatique est extraite de cette faible plante méprisée, pourtant qui donne une odeur incomparable, d'autant plus agréable lorsque l'endroit où elle a poussé est chaud. Nous y reconnaissons là la bonne odeur du sacrifice de Jésus. Et ce passage d'Éphésiens 5, 2 qui nous dit « Et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Il nous reste à voir l'huile aromatique de casse qui est extraite d'une autre famille du cannelier. On retire l'écorce en une seule fois d'un arbre âgé d'environ une trentaine d'années. Non mais attendez, oui, Jésus n'avait-il pas environ 30 ans quand il commença son ministère? Mais vous rendez compte tout ce qu'il y a dedans? Et on dit, ah oh ben c'est des aromates, c'est bien. C'est bon, ouais. Qu'est-ce que c'est ça le cinnamon? Ça c'est Christ. Ça c'est le Christ. Comme une faible plante, comme un roseau agité, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Âgé de 30 ans, environ, mis à mort, l'essence qu'on en retire possède 7 composants. Dieu, donc la perfection, Dieu nous parle ainsi du fait unique et parfait du sacrifice de son Fils. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le sacrifice est parfait. L'huile d'olive. Dites-moi, vous qui avez une grande connaissance biblique, mes frères et mes sœurs, où Jésus a-t-il souffert le plus ? À la croix ou dans un autre endroit ? Gethsémani en hébreu, c'est là où Jésus a souffert le plus. Vous savez ce que ça veut dire, Gethsémani en hébreu ? Ça veut dire le pressoir à huile. Jésus, il a été pressé comme une olive. Il a été écrasé, il a été pilé, tellement qu'il a été écrasé par nos péchés, nos iniquités, que des grumeaux de sang sont sortis de son front. Et si l'ange n'était pas venu pour le fortifier, peut-être que Jésus serait mort là, à cet endroit. Mais il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Gethsémani, il a fallu qu'il soit écrasé, Jésus, écrasé par le péché, écrasé par la souffrance, pour qu'il sorte de lui le meilleur, le Saint-Esprit qui allait être envoyé. Alléluia. Alléluia. Il a été écrasé, broyé, pour que ce qui sort de sa vie devienne pour nous un sujet de bénédiction. L'huile d'olive sans odeur parle du pressoir, de la souffrance de Christ brisée pour nos iniquités, Ésaïe 53:5. Cette composition merveilleuse d'huile essentielle nous instruit quant à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et de notre garantie contre la corruption. Pour vous, dit Jean, 1 Jean 2, 27-28, écoutez bien, pour vous, dit Jean, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit en nous, nous éloigne de la corruption. Pour vous, l'onction que vous avez reçu de lui demeure en vous. En vous. L'onction demeure en vous. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui vous donne les enseignements ? L'onction. La parole de Dieu, ouinte par le Saint-Esprit, vous donne l'enseignement juste et véritable. Regardez bien ce qu'il est dit là. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés, que l'onction vous a donnés. C'est l'onction qui vous donne l'enseignement. C'est l'onction qui vous révèle les choses. C'est l'onction qui vous fait découvrir la royauté, la majesté de Christ, l'excellence de Christ. C'est l'onction de Dieu qui est sur vos vies, qui va faire que Christ grandisse en vous. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, demeurez en Christ, afin que lorsque lui paraîtra, nous ayons de l'assurance. et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Il y a un risque. Il y a un risque. Face à la corruption contemporaine du monde qui appelle le mal bien et le bien mal, et face à la corruption et à la dégradation qui menace l'Église, où certains changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Oui, je dénonce les églises qui ne prêchent plus la croix. Je dénonce les églises qui cachent le péché et qui tolèrent le péché en son sein. Je dénonce ces églises devant Dieu, devant les anges et devant l'Esprit Saint. Je dénonce toutes les églises qui amènent les gens à la gêne du feu au lieu de les amener dans le royaume de Dieu. Tu peux tout faire, Dieu est amour. Vas-y, éclate-toi et à la fin, reviens à Dieu. Et tu crois que ça marche comme ça? Est-ce que vous croyez que ça marche comme ça? Face à la corruption et à la dégradation qui menace l'Église, où certains changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ah, on ne veut pas parler du péché. Ah, on ne veut pas parler des adultères. Ah, on ne veut pas parler de tes pratiques. Non, surtout pas. Faut pas choquer. Et surtout qu'elles ne partent pas les brebis. Hein. Faut qu'elles restent. Hein. Plus il y en a, plus on est content. L'Église, elle est pleine. C'est bien, ça marche comme ça. Où certains changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5:20. Qu'enfin, cette huile précieuse du sanctuaire qui retient le mal soit répandue sur nos têtes et que sa rosée descende, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la bénédiction. Voyez-vous cette onction d'huile sainte qui était en Exode 30 du temps de Moïse, où Dieu avait dit à Moïse de faire selon la composition de parfumeur, n'est-ce pas, avec ces quatre ingrédients aromatiques, n'est-ce pas? C'est bel et bien l'image du Saint-Esprit qui devait venir. C'est bel et bien l'image du Saint-Esprit qui devait nous oindre. C'est belle et bien l'image du Saint-Esprit qui devait demeurer sur nous et qui vivrait en nous. C'est belle et bien l'image de l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est belle et bien l'image qui va faire voir si l'autre qui est en face de toi, il a vraiment une bonne odeur ou pas une bonne odeur de Christ. Ces aromates sont ceux qui parfument les vêtements du plus beau des fils de l'homme. Frères et sœurs, regardez les Écritures, mais regardez les Écritures, regardez le psaume 45, le verset 3, 6, 7 et 8. Tu es le plus beau des fils de l'homme, ta grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice, tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Verset 8. Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès et casse quand tu sors des palais d'ivoire d'où ils t'ont réjoui. Le plus beau des fils de l'homme, c'est Jésus. C'est lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a envoyé le roi à Kodesh pour que tu ne sois pas un ignorant, pour que tu ne sois pas un chrétien de seconde catégorie, que tu sois un vrai enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi Paul dit maintenant, ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, selon ceux-là seuls sont enfants de Dieu. Il dit ceux-là seuls sont enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous continuerons les semaines qui viennent dans cet enseignement. Nous n'avons que commencé que le départ, frères et sœurs. Nous devons être au clair sur les choses que Dieu nous a laissées comme un héritage pour l'Église. Et nous n'avons pas besoin d'un héritage qui se corrompt, mais d'un héritage pur, saint et immarcessible. Un héritage dans lequel le Christ nous a laissé, hein, un héritage pour que nous grandissions à la stature parfaite de Christ. Ensemble, ensemble, que nous grandissions dans la grâce et dans l'amour du Seigneur. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net